Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez toujours préféré les chiens au cabot et les chevaux au sondage galop. Vous aimez la Normandie, mais aussi les États-Unis. C'est pourquoi vous posez aujourd'hui dans un livre ce qu'en politique on appelle la question de confiance. Bonjour Jean-Luc Hesse.
Bonjour.
Alors, on connaît votre voix, bien sûr, qui est une voix archi-radiophonique et télévisuelle.
Merci.
Vous sortez un livre, L'Amérique, la facture, chez Baker Street, on en parlera tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de revenir sur votre parcours à travers des dates clés. La première, c'est le 4 juin 1958, le jour de ce discours.
Je vous ai compris !
Parce que quelques jours plus tôt, en jouant aux osselets, à la fin du mois de mai, vous avez compris qu'il se passait quelque chose en France, Jean-Luc Hesse.
Oui, j'étais gamin, je me souviens, j'étais élève de l'école annexe à Évreux, où il y a une petite école dans le quartier de Navarre, et on jouait aux osselets avec les gamins de la classe, et on sentait qu'il y avait une atmosphère quand même qui était très bizarre. Et je me disais, alors je ne savais pas ce que c'était qu'un coup d'État ou je ne sais pas quoi, enfin, mais je sais que ça, c'est le premier truc qui m'a marqué dans ma vie de citoyen, si j'ose dire, j'avais 7 ans, donc c'est pas, je ne sais pas si c'est vraiment si marquant que ça, mais si, en fait, c'est qu'un événement extraordinaire, vous le ressentez même si vous êtes enfant.
Oui, c'était le putsch d'Alger. Il faut savoir que quelques semaines plus tôt, un sondage avait été fait que 13% des Français seulement croyaient à l'avenir politique du général de Gaulle.
Comme quoi, les Français, de temps en temps.
Et de Gaulle n'a jamais cru au sondage, en tout cas. Alors, à cette époque, de Gaulle, c'était quelqu'un d'important dans votre famille, Jean-Luc Hesse. Vous avez même fait des campagnes électorales avec des affiches.
Oui, et puis... J'en ai pas honte du tout. Non, non, mais moi, je suis issu d'une famille qui était des gaullistes religieux. C'est-à-dire que mon père avait fait la guerre dans la résistance. Il a été fait prisonnier par les Allemands en 1940, le pauvre vieux. Et puis, comme on a des origines un peu teutones, hein, vu mon nom, quoi, je peux pas vraiment le cacher non plus. Mais donc, mon père a fait cette guerre dans la résistance. Et en fait, ça m'a un peu gâché mon enfance, tout ça, parce que je suis né avec la mémoire d'un homme qui avait beaucoup souffert pendant la guerre et qui était sorti de là vraiment très en assez mauvais état psychologique, si j'ose dire. Et il était gaulliste, mais alors à tout crin. Et il y avait la croix de Lorraine qu'il avait lui-même fabriquée pendant la guerre, qui trônait sur le buffet de la salle à manger. Et donc, il y avait 5 enfants dans la famille, donc il fallait tenir cette espèce de silence rigoureux quand on déjeunait en famille, et je voyais toujours cette croix de Lorraine, que je trouve magnifique d'ailleurs. Et puis bon, on n'échappe pas à la culture familiale. Ma mère aussi était gaulliste, tout le monde était gaulliste. J'ai une de mes sœurs qui est plus gaulliste que moi encore, je ne sais même pas comment elle fait. Je vous dis, c'est une espèce de... Je ne sais pas, enfin, on s'est dédié à un personnage. Il y a peut-être des torts, mais je ne veux connaître aucun tort sur le général de Gaulle. C'est vrai que c'est mon idole. Je ne parle pas de politique, je parle de l'homme. Je parle de ce que ça représente. Moi, j'ai la larme à l'œil quand je l'entends dire « Paris libéré », tout ça. Enfin, ça me cause, comme on dit... aujourd'hui, et puis je suis très fier de ça. Pas, j'y suis pour rien, je veux dire, j'ai aucun mérite à être un gaulliste, encore une fois, religieux, mais je trouve que c'est bien d'avoir un cap comme ça, enfin, une personne, un commandeur qu'on peut regarder, et je suis très libéral, très peu discipliné, etc., etc. Mais en tout cas, je sais que ça m'a un petit peu aidé de temps en temps faut rester debout, quoi, faut pas se coucher, faut pas abandonner, il ne faut jamais abandonner. Et je pense que je le dois à mon cher papa et à sa croix de Lorraine.
Alors tout ça se passe à 100 km de Paris. Paris, c'est le bout du monde pour vous à l'époque, Jean-Luc Hesse, en Normandie. Et votre passion à l'époque, ce sont les livres, les chiens et les filles.
Bon, avec ça, hein, à la campagne. Je veux dire, les filles, pas encore.
Oui, mais un peu plus tard.
Mais c'est vrai qu'on s'ennuyait ferme à la campagne. Puis les parents travaillaient. Enfin bon, bref, on était un peu livrés à nous-mêmes. Ça, c'était formidable parce qu'on vivait dans une liberté... très, très, très importante. Mais il y avait les chiens et puis il y avait des livres. Et les livres, c'est quand même la chose qui vous fait sortir soit de l'ennui ou qui vous ouvre au monde ou qui vous ouvre à un autre monde. Et dès qu'on est dans un livre, quand on est enfant, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus d'envie particulière, il n'y a plus de frustration. Et je remercie jamais assez mes parents de m'avoir foutu la paix avec mon chien et mes livres et je leur dois beaucoup.
Oui, mais en même temps, la vie familiale était très maîtrisée. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire de bêtises. Votre père, je crois, était peintre en bâtiment.
Il était peintre en bâtiment. Ma maman était femme de ménage. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui, mais oui. Enfin, il y avait beaucoup de femmes de ménage. Et vivent les femmes de ménage. Et c'était des gens qui vous laissaient totalement en liberté. C'est-à-dire qu'on allait à l'école publique, bien évidemment. Et puis, c'était jamais on a regardé mes devoirs ou jamais on m'a fait réciter une leçon. Ou, tu sais, mon petit gars, c'est pour toi que tu travailles. C'était la méritocratie, vraiment degré zéro ou degré absolu. Et c'est vrai que je leur suis très reconnaissant d'avoir jamais regardé par-dessus mon épaule, tout ça. Il fallait juste respecter des règles très strictes de langage. Pas d'ennui, pas de petites canailles, ça n'existe pas. Quand on faisait une bêtise, on la payait cash. Mais jamais avec... J'ai jamais reçu une claque de ma vie.
Mais non, mais en plus, c'était une époque où à 14 ans, on quittait l'école pour aller travailler.
Oui, mes sœurs, mes quatre sœurs sont allées, enfin, trois de mes sœurs sont allées à l'usine à l'âge de 14 ans, après avoir passé le certificat d'études. Et moi, j'ai eu du pot parce que je suis né à un moment où la loi a changé. Et donc, il fallait 16 ans pour quitter l'école. Et alors, j'ai eu mon bac à 16 ans parce qu'il fallait bien s'occuper, quoi. Donc ça m'a sauvé la vie. Sinon, je pense qu'à 14 ans, je serais allé travailler aussi.
Oui, et le bac, ça a été un miracle parce que c'était juste après mai 68.
Ah oui.
Et vous avez pensé ne pas le passer, Jean-Luc Hess.
Oui, enfin, on nous l'a donné. Hein. Oui. Franchement, il n'y avait pas... Ah, j'ai eu une mention quand même. J'en suis pas plus fier que ça. Mais c'était vraiment un moment marrant parce que ça voulait dire la liberté. Youpi, on a son bac. Et voilà, puis j'étais le premier de la famille à avoir eu mon bac. Donc, je suis assez fier de ça.
Oui, et vous vouliez à l'époque devenir receveur des postes, je crois.
Oui.
Et vous êtes devenu facteur.
Mais oui, je suis devenu facteur. Mais c'est une très bonne période pour moi, d'ailleurs, parce que c'était une société de consommation qui commençait à s'épanouir beaucoup à ce moment-là. Et donc, pour s'acheter des chaussures, pour s'acheter un beau petit pantalon et une jolie veste, il fallait travailler, quoi. Et quand on était facteur, on était pas mal payé. Alors, je ne sais pas si les facteurs qui nous écoutent, là, s'il y en a, ils sont d'accord avec ça, mais je me souviens que la paye n'était pas mauvaise. Alors, on travaillait beaucoup la nuit, c'était fatigant. Mais je m'étais dit, voilà, j'ai mon bac, je ne suis pas trop bête. Je vais essayer de passer un concours pour être receveur des postes ou je ne sais pas quoi. Et puis, j'aurai une voiture à moi. Et puis, youpi, vive la belle vie. Mais j'ai une de mes sœurs qui m'a dit, mon coco, ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas venir avec moi, puis tu vas reprendre tes études. Donc, je suis allé à la fac. Et puis, elle m'a nourri logé pendant 2 ans avant que j'abandonne mes études. Mais en tout cas, elle m'a permis d'aller dans une fac de lettres et d'apprendre un certain nombre de petites choses.
Un facteur puis fac de lettres, c'est logique, il faut devenir homme de lettres ensuite. Mais les facteurs ont des destins étonnants, quelquefois ce sont des amis de la famille. Et il y a un facteur qui racontait que son gros problème, c'est que les enfants l'abordaient, il séchait l'école et il demandait à ses enfants à récupérer le bulletin qui était dans la boîte aux lettres avant que les parents le voient pour éviter la mauvaise note et la fessée.
Alors, j'ai jamais été exposé à ça. De toute façon, j'avais des bonnes notes, donc je n'aurais jamais joué à ce petit jeu-là.
Oui, alors au départ, je crois qu'aussi vous auriez pu devenir pilote d'avion parce que je crois que votre père a travaillé à la base d'Evreux, Jean-Luc.
Oui, oui, puis la base américaine d'ailleurs, mais oui, les avions, ça peuplait notre imaginaire de gamin, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être né à côté d'une base aérienne pour dire quand on est enfant, je veux être pompier ou pilote, quoi. Et donc j'avais une collection de maquettes d'avions parce que nos amis américains étaient très gentils avec les enfants, donc ils nous donnaient tout ça, enfin on pouvait, même des plans d'avion, rien de secret bien sûr, mais et donc je bricolais tout ça et au bout d'un moment quand même, étant un peu nul en maths et étant un peu maladroit, je me suis dit que ça serait peut-être pas une bonne idée qu'on me mette dans le cockpit d'un avion.
Et vous avez poussé la porte d'un supplément du Parisien qui s'appelait Normandie Matin, Jean-Luc Hess.
Mais vous savez tout. Oui, c'est vrai, parce que j'étais facteur. Et puis, il y avait un autre facteur qui était un type très marrant, avec une petite barbiche, un peu genre d'Artagnan. Et il détonnait chez les facteurs. Enfin, on le regardait un peu comme un prince, quoi. Et donc, je vais le voir. J'ai dit, on discute un peu. Il me dit, mais moi, je fais la chronique judiciaire. Je vais au palais de justice pour Normandie Matin. Donc, j'écris pas mal, tout ça. Tu devrais venir les voir si tu as envie de... Donc, j'ai poussé la porte, on m'a engagé. C'était une belle époque, hein.
Alors... Et c'était 10 centimes la ligne,
oui.
Je crois, hein.
Comme vous savez vraiment tout, c'est vrai, c'était 10 centimes la ligne publiée et 5 francs la photo publiée. Il fallait bosser.
Et oui, et en plus, il fallait bosser, c'était la presse régionale. Je crois que le premier reportage, c'était, il fallait que vous récupériez la photo d'un maire défunt, Jean-Luc.
Oui, alors ça, c'était dans un autre journal.
Au Maine Libre.
Au Maine Libre, oui. J'ai beaucoup aimé, moi, cette période dans la presse locale et régionale, parce qu'il n'y a pas de compétition entre les journalistes d'une rédaction. Tout le monde s'aime bien, bon, on peut avoir des inimitiés, mais il n'y a pas cette querelle d'ego fantastique que j'ai rencontrée plus tard dans mon métier. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu, un peu désarçonné d'aller frapper à la porte d'une brave femme dans le fin fond de la Sarthe. Là. Son mari était mort et à l'époque, les journaux publiaient une photo du défunt. Surtout, c'était le maire d'un petit bled. Voilà, quand ça faisait vendre des exemplaires, vous savez, le commerce n'est jamais loin dans les journaux. Hein. Et donc, je frappe, et puis cette femme me répond, et je dis « Bonjour, condoléances du Maine Libre. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» J'ai dit « Écoutez, je ne voudrais pas vous embêter, mais je voudrais récupérer une photo de votre défunt mari. » Elle me dit « Ça va être un peu compliqué. » Je dis, non, mais je ne veux pas vous embêter. Non, non, mais venez voir. Alors, elle m'emmène dans la chambre où était ce brave homme à qui il est arrivé un horrible accident. Il était passé à travers une trémie de sable. Et donc, il était franchement un peu abîmé. Et elle me dit, je lui ai mis une serviette autour du cou pour tenir le coup. Et ben pour la photo, j'ai dit, non, non madame, ce n'est pas du tout ça que je veux. Je veux une photo de son permis de chasse, son permis de pêche, n'importe quoi. Mais, et c'est la première fois, en fait, que j'ai eu un contact extrêmement bref, mais extrêmement stressant avec l'idée de la mort. Quoi. Mais pareil, c'est formidable. On devrait plus encourager les jeunes journalistes à aller travailler dans des journaux locaux, régionaux, parce que... Pourquoi on est journaliste ? C'est parce qu'on aime plutôt les gens, parce qu'on est curieux des gens, parce qu'on veut voir toutes sortes de gens. Et moi, alors, je peux dire que j'ai vu toutes sortes de gens dans cette carrière de journaliste local.
Et ensuite, vous avez fait d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 2 décembre 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Luc Hess.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Luc Hess. L'Amérique, la facture chez Baker Street, on en parle tout à l'heure. Mais on en revient à une date importante qui est le 2 décembre 1978. À la télévision, c'est la première d'une émission dont voici le générique. Cavalcade, ça vous dit quelque chose ?
Ah oui, c'est une de mes autres passions, ça. Il y a... journalisme, mon chien et les chevaux.
Voilà.
Et c'est un merveilleux souvenir, ça, que je dois à Georges Pernoud, qui était producteur de Thalassa, comme chacun le sait. Et puis, il y avait une autre émission à côté qui s'appelait Cavalcade. Et puis, il y a toujours des problèmes de budget à la télévision. Donc, on se dit, bon, les bateaux s'intéressent davantage que les chevaux, donc on supprime l'émission. Et donc, c'était un peu... Je trouvais ça, j'étais pas tout à fait d'accord avec ça, mais bref, Georges Pernoud m'a dit, écoute, est-ce que tu veux faire une émission sur les chevaux ? Voilà, tu te débrouilles. C'était pour ça une époque assez formidable à télé aussi, parce que on lâchait la bride sur le cou, si j'ose dire, en l'occurrence, à des gens. Moi, j'avais jamais fait de télé, enfin très peu. Donc, et puis j'ai adoré faire ça parce que d'abord c'est ma passion, les chevaux. Il y a rien de plus beau que les chevaux, hein, enfin de mon point de vue. Et puis, on y apprend beaucoup de choses parce que c'est un art difficile de monter à cheval. Enfin, à un certain niveau, c'est vraiment un art difficile. Il faut beaucoup de qualité et d'intelligence pour comprendre, pour s'adapter, etc., etc. Et j'ai rencontré des gens merveilleux là-dedans. On a fait plein d'émissions, avant que ça s'arrête pour des raisons budgétaires aussi, d'ailleurs, comme d'habitude. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup compté. J'ai monté des chevaux, par exemple, de l'équipe de France, championne du monde de concours complet. Si vous voulez avoir la trouille dans la vie, il faut monter au concours complet. Je veux dire, il faut fermer les yeux, quoi. C'est crise cardiaque assurée. Mais voilà, les chevaux en Camargue, les chevaux aux États-Unis. Je fais une course comme ça. À cause de cette bêtise de faire cette émission sur les chevaux, j'ai fait une course de 100 miles d'endurance, 165 km dans la journée à cheval, au soleil en Californie. Je vous jure que ce n'est pas de la tarte. Mais ce sont des expériences que je renouvellerai évidemment jamais. Mais petit à petit, on forme son caractère et ses envies avec tout ça, quoi. Vive le journalisme.
Et l'émission était produite par quelqu'un qu'on a bien connu, qui est Pierrette Bresse, Jean-Luc Hess, qui était au départ champouineuse, qui est rentrée, qui a commencé à être jockey, femme jockey, et qui ensuite est rentrée à la télévision et a été martyrisée par Léon Zitrone, qui un jour lui a fait un sale coup. Elle avait son prompteur, elle devait dire son texte, il l'a dit à sa place. Et elle s'est retrouvée comme une imbécile.
Ça ne m'étonne pas, Léon Zitrone, que je n'ai pas connu, mais ça ne m'étonne pas. Il ne devait pas être que gentil, celui-là.
Le cheval, c'est né comment, cette passion, Jean-Luc Hess ?
Ça va vous surprendre sûrement, mais je suis assez grand et quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai fait une crise de croissance, comme on dit. Et donc, j'ai eu une syphoscoliose. Vous savez, c'est quand vous avez la colonne vertébrale qui va dans tous les sens, comme un vilebrequin de voiture. Et puis, ma maman m'a emmené chez le médecin. J'avais pris 15 cm en 2 mois ou 3 mois. Et le médecin a dit, oui, ce garçon, voilà, il a une crise de croissance. Apprenez-lui, faites-le monter à cheval, ça va le redresser sans effort. Alors, ma mère, elle a dit, oui, ça va pas être très pratique, mais on va essayer ça, et c'est vrai que ça m'a mis droit assez vite. Et donc, ça m'a fait un bien fou, quoi, parce que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'équitation, enfin, au niveau amateur, c'est pas vraiment un sport, c'est-à-dire que ça fait mal nulle part, ça décontracte beaucoup, ça ne fait pas mal au dos, ça peut faire mal aux fesses à la limite pendant un certain temps, mais on s'habitue à monter à cheval et puis à être bien, c'est comme marcher, c'est même moins fatigant que faire du vélo, vous voyez.
Et aujourd'hui encore, vous faites du cheval ?
Oui, enfin je monte moins qu'avant, mais j'ai toujours mes chevaux. Voilà. Oui.
Et surtout, la campagne, pour vous, c'est votre univers, ça n'est jamais parti. Vous restez fidèle à ça, Jean-Luc Hess.
Oui, je me souviens qu'un président de la République m'a dit que j'étais un bouseux.
Oui.
Et c'était un compliment, hein. Oui. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et donc, il m'a dit, mais vous êtes vraiment un bouseux. J'ai dit, oui, je viens de là, je retourne là et je m'y sens bien. C'est-à-dire que la campagne, c'est vous ne voyez que les gens que vous choisissez de voir. Il y a du silence, il y a beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux inattendus. Je rêve toujours d'écrire un petit bouquin sur les animaux pour les enfants et leurs parents. Leur apprendre ce que c'est qu'une belette, le courage d'une belette, la curiosité d'une belette, l'intelligence d'une belette, ou d'un écureuil. Dire, vous savez, ça pèse 245 grammes un écureuil. Et ça me stocke 120 kilos de bouffe par an pour l'hiver. Quoi. Je veux dire, tout un tas de... La campagne, c'est un lieu où on est en tranquillité, en paix, en général. Il y a des problèmes aussi à la campagne, hein, bien sûr, mais les gens font attention, respectent votre tranquillité la plupart du temps. Et vous pouvez consacrer votre temps à contempler les petites bêtes. Moi, j'ai regardé pendant le confinement les oiseaux. J'ai toujours eu des oiseaux, confinement ou pas, mais... Quand vous regardez des mésanges qui vont à leur nid deux fois par minute pour filer la béquille, vous pouvez regarder ça pendant 3 heures l'après-midi, hein, si vous n'avez rien de spécial à faire. C'est absolument formidable. Paris, c'est bien aussi, tout ça. Si vous avez un grand appartement, un chauffeur et que vous êtes riche, c'est épatant. Mais ça ne vaut pas la campagne.
Alors, il y a aussi une chose très curieuse, Jean-Luc Hess, c'est que vous ne connaissez rien au bateau et pourtant vous avez présenté des émissions sur la marine.
Toujours à cause de Georges Pernoud. Donc on me supprime mon budget pour Cavalcade,
ah oui,
j'étais bien
arrive.
Embêté. Et Georges, qui est un amour d'homme, il m'appelle, il me dit, voilà, viens à Thalassa. Je dis, mais je connais rien au bateau. Il me dit, mais justement, c'est super, comme ça les gens comprendront, puisque tu connais rien, tu seras bien obligé d'expliquer mieux que les gens qui connaissent. Et c'est pareil, j'ai navigué sur des bateaux insensés, j'ai rencontré des gens. Tabarly, quoi, c'est un souvenir... vraiment ému que j'ai vis-à-vis de cet homme. Il y en a eu plein d'autres. C'était que des gens absolument formidables, absolument courageux, rigolos, intéressants. Et Tabarly a essayé de m'expliquer comment ça marche un bateau. Il n'a jamais réussi à m'expliquer.
Alors, tout ça n'a pas commencé par l'image, mais par la voix, car vous avez été repéré, grâce à votre voix qui était différente, lors d'un concours, Jean-Luc Hess, un concours pour FIP.
Alors là, il faut rendre hommage à deux types, comme on ne rencontrera plus jamais des patrons. C'était Codou et Gareto. C'était des seigneurs du métier. C'était des gens, on parle de l'ORTF en 1970, dans ces eaux-là. France Pompidolienne, on rigolait pas à l'ORTF. Hein, franchement, fallait filer doux. Et ces deux-là étaient producteurs, donc ils faisaient l'oreille en coin sur France Inter, et puis ils avaient eu l'idée de monter une petite radio, Music and News, ça s'appelait FIP 514.
C'était première Music and News.
Ouais. Et puis ces gens-là ne rendaient de compte à personne. C'était vraiment, je vous dis, des seigneurs, des mecs bien. Et je dis ça parce que j'ai pas eu, comme vous, j'imagine, que des patrons bien. Et donc ils montent leur radio, puis ils font un essai. Ils faisaient des essais à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de copinage, on n'engage pas le cousin de la copine du neveu, tout ça. C'était talent. T'as du talent ou t'en as pas, mais pour ça, il ne faut pas voir les gens. Donc, ils se mettaient dans un studio, tous les deux, tout seuls, et puis on travaillait, on faisait ce test dans un studio à côté, et ils n'écoutaient que la voix et la façon dont on faisait notre truc. Et donc, ils n'avaient même pas vu ma bobine ni rien, ils ne savaient pas du tout qui j'étais, d'où je venais. Et puis donc, je fais mon petit essai, puis je me dis, bon, moi, c'est la première fois de ma vie que je vois un micro, et y compris une dépêche AFP à retravailler, donc je vais rentrer chez moi à Évreux, et puis on va retourner au Normandie matin. Et j'avais pas le téléphone, évidemment, à l'époque, et j'ai reçu un télégramme de Codou et Gareto, vous êtes engagé, vous commencez lundi. Et ça a été un bonheur de connaître ces gens-là, un vrai bonheur.
Et vous avez ensuite appris votre métier de reporter. Je crois que le premier reportage qu'on entend avec votre voix, c'est le 15 avril 72 à 8h du matin sur l'affrontement entre l'Iran et l'Irak, Jean-Luc Hess.
Ah bah alors là, vous m'en calfeutrez une fissure, comme dit l'autre, parce que je ne m'en souviens pas du tout.
Voilà, c'est la première fois qu'on vous entend dans Intermatin et vous avez appris ce métier sur le terrain.
Ah oui, complètement, je n'ai pas fait d'école de journalisme.
Et à l'époque, c'était possible.
Oui, non, mais tout le monde faisait une école de journalisme, et moi j'étais passé à côté. Et c'est marrant parce que je me suis retrouvé prof, d'ailleurs, pendant 4 mois, entre 2 vicissitudes professionnelles, entre 2 licenciements, quoi, si j'ose dire. Et j'ai été prof à Sciences Po pendant 4 mois, avec des étudiants qui étaient vraiment bien sous tous les plans, enfin, bonne famille, bonne éducation. Et puis au bout de 4 mois, je suis parti, je me suis dit, mais... Enfin, vive les écoles de journalisme, mais je ne suis pas formaté pour ça, quoi. Moi, je leur demande de penser par eux-mêmes, qu'ils ne me répètent pas ce qu'ils ont lu dans l'Obs ou dans Libé. Et puis, tous les matins, enfin, à chaque fois qu'on avait des travaux pratiques, ils me ressortaient ce que j'avais déjà lu ailleurs. Donc, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras. J'ai dit, écoutez, chacun son truc. Hein. Moi, je ne suis pas pour les réseaux, tout ça. On n'est pas journaliste pour réussir. On est journaliste pour informer et pour rendre service. Et ça, ce langage, passait difficilement à Sciences Po.
Oui, mais enfin, vous avez fait vous-même avec votre carrière. Et on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 15 octobre 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Luc Hess.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Luc Hess. Ce livre, L'Amérique, la facture chez Baker Street, on en parle tout à l'heure. Mais on va déjà évoquer l'Amérique avec une date, le 15 octobre 2003, la sortie d'un film qui a une histoire, Mystic River. Un film avec Clint Eastwood, et je crois que votre interview de Clint Eastwood vous a valu une casquette, Jean-Luc Hess.
Oui, je l'ai toujours d'ailleurs. Moi, je suis un peu midinette. J'avoue très humblement que j'ai des souvenirs de Paul Newman, par exemple. Comme si c'était hier, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait rencontrer un type comme ça et passer un après-midi avec lui.
Aimait les chiens, je crois, comme vous.
Ah, il aimait les chiens, oui, on a comparé les photos de nos chiens d'ailleurs. Mais moi, j'avale tout, l'hameçon, la ligne, la canne à pêche, tout. Enfin, quand je rencontre mes idoles, quoi. Et Clint Eastwood, ça faisait partie aussi de mes idoles de gamin, de post-adolescent. J'avais même un poster de lui dans ma chambre. Où on le voit tenir un fusil et tout, enfin bref.
Il disait, quand on tire, on ne raconte pas sa vie.
Oui, ouais. Dirty Harry. Et on m'envoie, enfin, je m'envoie d'ailleurs. Oui, parce que j'étais directeur de France Inter, puis il y a Clint Eastwood, enfin, je connaissais son attaché de presse à Paris, elle me dit, Clint, monsieur Eastwood est à Londres, tout ça, est-ce que ça te dit d'interviewer? Mais je fonce, donc j'y vais. Et puis, évidemment, quand Clint Eastwood est à Londres, c'est pas pour recevoir un journaliste, il y en a 100. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, au milieu de 100 journalistes? Et puis, j'arrive à obtenir une interview, 20 minutes. Mais ça valait le détour, mais 20 minutes. Et puis, donc, on m'introduit auprès du grand, grand, grand Clint Eastwood, comme dans les films, tout ça. Donc, je suis un peu intimidé. Et puis, bon, on commence à discuter. Et puis, j'essaie de faire le malin, enfin, de lui dire, vous savez, je ne suis pas un journaliste comme ceux qui vous attendent à la sortie. Là, moi, j'ai des questions très profondes sur Mystic River, qui est un film très douloureux, d'ailleurs, hein, très sombre. Et on commence à parler du film. Et je lui dis, mais au fond, vous êtes un homme religieux. Et je ne sais pas ce que ça a déclenché chez lui, mais on s'est mis à parler religion pendant les 20 minutes qui m'étaient accordées. Sauf que moi, j'étais passionné par mon sujet, mais que je n'avais pas enclenché l'enregistrement, quoi. Et donc, la dame, le Cerbère qui s'occupait de Clint Eastwood, elle ouvre la porte, elle dit, c'est fini. Je dis, mais attendez, non, on n'a pas commencé. Elle dit, non, mais il y a tellement de gens qui attendent dehors, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai pleuré au prix de Clint Eastwood. Elle dit, bon, allez, on recommence tout. Et puis il m'a accordé mon interview de 20 minutes enregistrée cette fois. C'était nettement moins intéressant que la première partie de la conversation. Mais je suis reparti, il m'a donné sa casquette. Et donc, alors là, j'étais vraiment, j'ai repris le train pour rentrer sous le tunnel, sous la Manche, l'Eurostar, et puis il n'y avait pas plus heureux que moi, comme un gamin à qui on a donné un bonbon, et j'ai failli perdre cette casquette un jour au ski, je skie très 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 mal, et donc à l'arrivée d'un télésiège, je tombe par terre, ma casquette part, je suis incapable, et il y a une très jolie jeune femme qui est venue avec son bâton et ma casquette au bout, et elle m'a dit, elle ne peut pas savoir le bonheur qu'elle m'a fait, j'en aurais pleuré d'avoir perdu ma casquette, est-ce bête?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous parlez anglais et que vous avez toujours dit que l'anglais est important quand on veut devenir journaliste, Jean-Luc Hess.
C'est essentiel. C'est toujours le conseil que je donne avec mes étudiants là, à Saint-Denis il y a 15 jours. Je leur ai dit, voilà, apprenez l'anglais. Il n'y a pas d'autre façon possible de vivre sa carrière de journaliste. Alors, ils me regardent toujours un peu bizarre, mais moi, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que si vous faites du journalisme assis, vous n'aurez peut-être pas l'obligation de parler anglais, encore que. Mais si vous faites du journalisme ambulatoire, il va falloir, dans tous les pays du monde, vous débrouiller. Et la langue, c'est quand même le vecteur qui fait qu'on arrive à communiquer entre les gens. Et j'y peux rien si, dans le monde entier, on parle anglais. Je veux dire, vous allez en Laponie, vous allez trouver quelqu'un qui parle anglais. Pareil aux îles Fidji, je veux dire, c'est comme ça. Et donc, en plus, c'est une magnifique langue. Donc c'est une langue très subtile, contrairement à ce qu'on pense en général, les gens qui parlent bien anglais, c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Et aux États-Unis, j'ai remarqué souvent que certaines minorités parlaient un anglais merveilleux dans la syntaxe, l'utilisation des prépositions, et tout ça. Et je suis amoureux de cette langue. D'ailleurs, je ne lis que des livres en anglais maintenant.
Et justement, les États-Unis, vous avez été pendant 10 ans correspondant à Washington. Comment c'est arrivé, Jean-Luc Hess ?
Vous vous souvenez de 1981 ?
Oui.
Figurez-vous que... à Radio France, comme dans d'autres sociétés publiques, ça a été un peu chaud.
Oui.
C'est-à-dire qu'on vous demandait votre carte du PS ou pas, ou du PC, mais sinon vous étiez assez mal vu. Moi, je n'étais pas encarté nulle part. Donc, c'est devenu assez vite pesant, l'atmosphère. J'ai rien contre la gauche, hein, j'ai rien pour la droite non plus, mais c'était devenu assez pesant, ce qui me concerne. Moi, j'aime bien qu'on me foute la paix, puis je pense ce que je veux, et puis comme je veux, quand je veux. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est juste pas possible, je peux pas rester, on peut pas faire son métier dans cette atmosphère, un peu, on aurait cru, post-1789, enfin, il va y avoir des têtes coupées, d'ailleurs, il y en a eu, enfin, sur une manière figurative. Et la BBC m'a proposé tourner un film sur des épaves sous-marines. Je nage à peu près comme je skie, donc pas terrible, et je me suis retrouvé en Angleterre à attendre que des plongeurs caméramans aillent... filmer des épaves, y remonter 3 heures après, j'attendais sur le quai, je me suis dit, je vais pas y arriver longtemps, je m'ennuie, sauf qu'il y avait une équipe formidable, il y avait le fils de Yehudi Menuhin qui faisait la musique du documentaire, donc vous voyez, c'était chic quand même. Et puis il y a un certain Jérôme Bellé, bien connu de la profession, qui a tout vu, tout bu, tout lu, qui a un caractère féroce, et qui est un super journaliste, je veux dire, il a le pif, il y a des gens comme ça, ils savent, ils regardent 3 lignes dans une dépêche, ils savent que le tremblement de terre, c'est pas une amusette qui va y avoir 2000 morts. Quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour ce type-là. Il m'a retrouvé dans un hôtel pourri de Southampton, Portsmouth, je sais plus, oui. Et puis il m'a dit, bon, tu veux être correspondant aux États-Unis ? J'ai dit, pas qu'un peu mon neveu. Il m'a dit, bon, bah, tu pars à Washington. J'ai dit, non, je veux pas aller à Washington, je veux aller à Los Angeles. Et il me dit, pourquoi tu veux aller à Los Angeles ? J'ai dit, parce que ma petite amie, elle habite Los Angeles, et ça fait 6000 kilomètres entre les deux, ça va pas être possible. Et il m'a dit, pardonnez-moi pour la grossièreté, il m'a dit, t'es un petit con, tu vas à Washington. J'ai dit, oui chef, parce que vous pouvez pas résister à Bellé. Et puis, je suis arrivé dans la foulée à Washington, où j'ai passé les plus belles années de ma vie, pas qu'à Washington, hein, mais aux États-Unis, et les meilleures années professionnelles de ma vie.
Il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup d'ailleurs, elle était très triste et vous lui avez remonté le moral, une comédienne qui est une star, Jacqueline Bisset, j'en guesse.
Ah oui, j'aimais bien Jacqueline. C'est des histoires qui frôlent l'intime, parce que j'avais un copain qui était prof à Washington et qui, quand il était gosse, il a toujours passé ses vacances avec Jacqueline Bisset. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, Jacqueline Bisset est en train de tourner un film au Mexique, Under the Volcano, le genre de truc qu'on peut pas tourner. C'était John Huston qui était metteur en scène en plus, et il me dit oui, et alors il me dit ben voilà, le petit ami de Jacqueline Bisset l'a quitté, c'était un danseur bien de sa personne, et elle a besoin de parler français parce qu'elle est parfaitement bilingue et a fait une petite déprime, et donc le producteur vient de m'appeler pour me dire est-ce que tu connais quelqu'un qui parle français qui pourrait aller un peu parler français avec Jacqueline Bisset. Mais bien sûr, moi, je cours. Et donc, bah, je suis arrivé à Cuernavaca. C'était encore pareil. On vit dans ce métier des scènes, des séances tout à fait extraordinaires. Et on est payé pour ça, en plus. Et donc, bah, pendant 8 jours, j'ai fait le petit chien qui parle français avec Jacqueline Bisset. Donc, on allait partout ensemble. Elle voulait acheter des assiettes. On allait acheter des assiettes. Elle voulait visiter des monuments et tout. Et donc, évidemment, je suis tombé red dingue amoureux de Jacqueline Bisset. J'ai jamais montré quoi que ce soit. Je suis rentré, puis il y avait des fous sur ce tournage. Il y avait Albert Finney.
Oui, avec qui vous êtes devenu très copain.
Oui, faut dire qu'on picolait pas mal. Hein.
Oui.
Lui aussi, surtout lui d'ailleurs. Et donc, au bout de 8 jours, il a vu dans l'état où j'étais, enfin, comme un petit chien amoureux, quoi. C'était pas possible, c'était pathétique. Et il a frappé à ma porte un matin et il m'a dit fais ton sac. Tu t'en vas, tu peux pas rester là, tu vas être très malheureux, c'est pas fait pour toi ce monde-là. Et donc, je me souviens, il était en short, il était un vieux short tout pourri de l'armée des Indes. Et il a mis le sac dans le coffre de ma bagnole. Il m'a dit, allez, va-t'en, c'est juste pas fait pour toi ce monde-là. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné.
Il faut savoir qu'Albert Finney a joué des tas de rôles, dont Jean-Paul
Tom
II.
Tom Jones.
Et Jean-Paul II aussi, Tom Jones. C'est l'un des acteurs les plus récompensés de sa génération. Et il a une particularité qui est rare, il n'avait ni agent ni manager.
Oui, alors ça, on n'a pas évoqué tout ça avec lui, mais... Mais c'était une personne à lui toute seule, quoi. C'était une grande, grande personne, extrêmement gentille avec les plus petits. C'est-à-dire, c'est ça la vraie modestie, la vraie humilité. Enfin, la vraie humanité, c'est ça. C'est que vous soyez reine ou roi ou je sais pas quoi, ou laquais, ça vaut la même attention, la même attention. Et c'est assez rare, ce phénomène. On retrouve beaucoup chez nos amis américains la vraie attention. C'est-à-dire, on parle à quelqu'un, on parle pas à côté, enfin, on lui parle et on écoute. Et ça, j'ai toujours aimé ça, notamment dans les grandes stars américaines.
Et il y a une star qui vous a marqué pour d'autres raisons, dont on écoute une chanson.
Suzanne takes you down to her place near the river.
Car l'une des rencontres de votre vie, Jean-Luc Hesse, c'est Leonard Cohen.
Ouais. Ouais. Mais je vais pleurer hein, si ça continue là, cette émission. Non,
Leonard Cohen. On pleure dans nos émissions, pas ici.
Non, Leonard Cohen, c'est vraiment une grosse, grosse rencontre. Parce qu'à un moment, cet homme faisait une dépression. Et un jour, je suis allé le voir dans le monastère où il était en retraite, à côté de Los Angeles, enfin dans la montagne. C'était l'hiver, il faisait froid, il y avait de la neige. Et donc, je vais le voir là-bas. Et je vois un homme avec un t-shirt, il faisait un froid de canard, avec un t-shirt avec un trou, t-shirt bleu marine, enfin. Et puis donc, on parle. Puis il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, ben je médite et puis je suis chargé des latrines cette semaine. Mais la semaine d'après, je ferai les poubelles. Et je me disais, mais c'est plus fort que moi. J'étais né avec Leonard Cohen, enfin, Suzanne, tout ça, comme tout le monde, enfin. Et je me disais, c'est dingue, cet homme. Donc on a là commencé à entrer dans le détail de ce que j'appelle moi une dépression. Et notamment, c'était lié aux femmes. Rien de très étonnant, elles peuvent vraiment nous déprimer, hein, mais elles peuvent aussi nous enflammer dans le bon sens. Et je ne sais pas, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas psy, mais j'ai surtout compris que cet homme avait besoin justement de compassion de temps en temps, de parler en sécurité, en confiance. Et donc on a développé, j'ai passé une journée formidable avec lui, j'ai médité aussi, enfin, j'ai essayé, c'était pas très gai le monastère. Et l'un des dernières images que je vois en sortant de ce monastère, c'est la nuit tombée, puis Leonard Cohen avec son petit t-shirt dans le froid comme ça, je lui disais, mais c'est pas possible. Puis bon, bref, il est retourné à la scène, il est retourné à ce qu'il sait faire, c'est un merveilleux poète.
Il a disparu en 2016.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous le savez, Jean-Luc Hesse, mais il y a une façade de 21 étages à Montréal avec un portrait de lui en son honneur et en hommage.
Ben, je ne le savais pas, je ne suis pas retourné à Montréal depuis longtemps. Mais j'ai encore un petit mot sur lui. Je suis devenu un peu son interprète quand il venait en France, quand il donnait des interviews, parce qu'il était très précis dans ses mots. C'est-à-dire qu'il parlait français, mais il ne voulait pas dans les interviews parler français parce que ça pouvait dénaturer la précision de sa pensée. Et j'ai un dernier souvenir comme ça de lui, où je lui sers d'interprète, et je le remercierai jamais assez, enfin, d'avoir été à côté du maître, quoi. Enfin, moi, je suis pas pour les journalistes qui veulent être sur la photo du tout. Mais j'étais très fier de pouvoir lui rendre un petit service comme ça, que n'importe quel traducteur plus doué que moi aurait pu lui rendre. Mais c'est des cadeaux. Cet homme a été un cadeau.
Il y a d'autres cadeaux, notamment ce livre qui est sorti le 13 octobre 2020 et dont on reparle dans quelques instants avec Jean-Luc Hesse sur Sud Radio.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Luc Hesse. 13 octobre 2020, sorti de l'Amérique, la facture chez Baker Street. Un livre où vous posez une question, le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique? Pourquoi ce livre aujourd'hui, Jean-Luc Hesse?
Parce que la question se pose, et elle se pose assez douloureusement pour la moitié des Américains, et peut-être aussi douloureusement pour une bonne partie de la planète. On va arrêter de dire du mal de Trump, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui a été dit, et puis il en restera beaucoup à dire après l'élection.
Il en dit lui-même, d'ailleurs, quelquefois.
Oui, enfin, je trouve qu'il s'épargne un peu trop, mais c'est... Je dis toujours, enfin, les clichés, c'est agaçant, mais ça dit une vérité, les clichés, toujours. Je pense qu'on est tous américains. Alors, quand j'ai dit ça, ça fait hurler pas mal de gens, mais Je suis bien convaincu que ce qui se passe à Washington dans le bureau ovale a une influence un jour ou l'autre sur ma vie, sur la vôtre, sur celle de ceux qui nous écoutent, mais sur celle des Syriens, sur celle des Indiens, sur celle des Russes, sur celle de tout le monde, quoi. Donc je veille un peu comme le lait sur le feu, bien que je ne vote pas aux États-Unis, ça m'intéresse, et en plus ça me concerne. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait regarder la chose américaine sous cet angle-là. Et il y aura une facture à payer. Alors, encore une fois, j'essaye d'éviter, je me soigne, j'essaie d'arrêter de dire du mal de Trump, puisque ça ne sert à rien, il est là, et que la démocratie, c'est ça, les Américains ont voté, pas majoritairement, mais en tout cas, il s'est retrouvé président des États-Unis. Cela dit, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est-à-dire, ça a des conséquences sur tous les plans. Trump ne s'est pas manifesté comme étant un homme très équilibré, très visionnaire, ayant une vision globale et de son mandat et de sa responsabilité de première puissance mondiale du monde. Première puissance mondiale. Donc ça m'ennuie parce que ça a des répercussions dans le domaine de la sécurité collective. Regardez ce qui se passe avec la Turquie, l'OTAN, la Syrie, le Proche-Orient, le Haut-Karabakh. Enfin, voilà, quoi. Quand il n'y a pas de patron aux manettes, c'est quand même un peu dangereux. Alors, on a souvent reproché aux Américains d'être les gendarmes du monde, mais je préfère les gendarmes du monde aux chaotiques du monde. Quoi. C'est-à-dire que c'est un pays qui a une destinée que je trouve particulière, et donc ce pays doit assumer ses responsabilités particulières.
Alors, Donald Trump, vous l'avez sans doute jamais rencontré, Jean-Luc. Non. En revanche, j'ai connu beaucoup de présidents, donc vous pouvez comparer.
Ah ben oui, mais vous voyez, moi j'ai autant d'amis démocrates, peut-être que je mens un peu, mais que républicains. Mais je pense que tous les Américains sont des gens comme nous. Enfin, il y a beaucoup de décence et de générosité dans ce pays. Donc voilà. Et j'ai été pendant 8 ans, j'ai suivi Ronald Reagan. Et puis pendant 2 ans après, j'ai suivi George Bush père. Je peux pas dire que c'était ma tasse de thé politique. Par exemple, Reagan, c'était un monsieur conservateur, etc., etc. Mais il y avait tout de même une espèce d'élégance, une espèce de décence, une espèce de respect des institutions. En tout cas, l'Amérique n'avait pas honte de Ronald Reagan. Et même si l'Amérique pensait que... Enfin, la moitié de l'Amérique, en tout cas, pensait que c'était pas le président qu'il fallait, pour un milliard de raisons, des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons philosophiques. Voilà. Mais j'avais du respect pour l'homme. En plus, comme à l'époque, c'était avant le 11 septembre, on était correspondant à la Maison-Blanche, on pouvait aller partout avec le président, on pouvait voyager dans le monde entier. C'était vraiment marrant. Donc on avait l'occasion de voir comment cet homme se comportait, comment il se comportait avec les autres. Rien à voir avec le clown que je vois dans un meeting en ce moment aux États-Unis. Je veux dire, il y avait la classe, quoi, d'une certaine façon. Pourtant, c'était un petit acteur de série B, mais il avait conscience, je crois, de son rôle et de la représentation que c'est un président des États-Unis, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un autre monde. C'est même pas de la télé-réalité, c'est du bastringue. Et donc, ça me fait du mal à l'Amérique, quoi. Voilà.
C'est de la télé-irréalité, plutôt, Jean-Luc.
Oui, hélas, pas irréel, quoi. Oui.
Alors, il y a justement eu un classement des présidents américains pour l'humour. Bon, pour l'instant, Donald Trump n'est pas catalogué.
Non, ça risque pas.
Celui qui a le plus d'humour au second degré, c'est George Bush, le premier, le 41e président, qui un jour, son grand fait d'armes est, paraît-il, d'avoir vomi sur le premier ministre japonais. Et ça a été un événement aux États-Unis.
Vous appelez ça de l'humour ?
C'est ce qu'ils appellent de l'humour. Et Barack Obama, qui a fait beaucoup rire, n'arrive que quatrième dans ce classement.
Ouais. Pourtant, lui, alors, c'est un cérébral, Obama. C'est un intellectuel cultivé et tout. Je l'appelle Fred Astaire, tellement j'aime cette façon de se déplacer, d'avoir un blouson de jouer au basket ou d'avoir un costard Armani qui lui va impeccablement. Je sais. Mais à propos d'humour, Reagan, il avait de l'humour. Quand il s'est pris une balle mal placée un jour, en 81 d'ailleurs, oui. À Washington, et il est arrivé à l'hôpital, et il a dit « J'espère que vous êtes tous des bons républicains ». C'est assez drôle, le type avait quand même pris une balle, enfin c'était assez grave, quoi. Il fallait opérer et tout. Et donc, oui, je crois qu'il avait de l'humour. Un qui avait beaucoup d'humour, c'était Lincoln.
Oui, aussi, dont vous parlez dans le livre, d'ailleurs, et qui a été très important, et qui avait justement des gens autour de lui pour l'épauler et pour créer la Constitution des États-Unis.
Non, ça date d'avant la Constitution. Mais non, c'est mon préféré, Lincoln, non seulement pour son tribut à la vie politique américaine, malgré une guerre civile épouvantable, mais il avait beaucoup d'humour. Il a signé l'acte d'émancipation des esclaves. Je crois que je ne sais jamais si c'est le 1er janvier 62 ou 63, je ne me souviens plus, c'est l'âge. Mais il avait serré beaucoup de mains ce jour-là, parce qu'il y avait beaucoup de gens à la Maison-Blanche, c'était le 1er janvier. Et puis, il devait signer l'acte d'émancipation. Et il a mis le papier dans son chapeau de forme, il a mis ses gants dessus, puis il s'est mis à tchatcher, comme ça, à discutailler. Et puis, tout le monde s'impatientait. Et au bout d'un moment, quelqu'un s'est énervé, le secrétaire d'État s'est énervé, il lui a dit « Mais monsieur le Président, il faut signer. » Il a dit « Oui, mais j'ai tellement mal à la main qu'il faut que j'attende 5 minutes, parce que sinon, l'histoire va penser, en regardant ma signature, que j'ai tremblé. » Et je ne sais pas si c'est de l'humour, mais enfin, c'est de l'humour profond, si c'est de l'humour.
Un qui n'avait pas d'humour, paraît-il, c'était Richard Nixon. Il ne faisait que des blagues sur Kissinger qui ne faisaient rire personne. Voilà.
Non, mais ces deux-là ne m'ont jamais fait rire non plus. On l'appelait le prince des ténèbres, vous voyez, c'est amusant.
Alors, vous évoquez dans ce livre « L'Amérique, la facture », Jean-Luc Hesse, Donald Trump qui, face à un problème important, zappe, il n'a même pas lu la Constitution des États-Unis.
Non, ça c'est extraordinaire. Quelqu'un a essayé de lui faire lire avant qu'il soit élu, et je ne sais plus qui c'était, enfin, un de ses conseillers de campagne, un avocat, puis il a expliqué après que Trump, arrivé au deuxième amendement, qui est si important, enfin, sur le port d'armes, il a mis un doigt dans la bouche, il a regardé au plafond du genre « tout ça m'emmerde, mais copieusement ». Et donc, on s'est arrêté là. Alors c'est sûrement, je caricature un peu le personnage, mais au fond, pas tellement un homme qui ne lit pas, qui ne s'intéresse pas à l'histoire du monde, qui ne s'intéresse pas à la civilisation, qui ne s'intéresse pas à tous ses concitoyens, ne devrait pas être président.
Oui, et en plus, il ne lit même pas les notes qui sont sur son bureau à la Maison-Blanche, Jean-Luc.
Bah, c'est la génération télé, vous savez, ça zappe. Le temps de concentration est très très court. D'ailleurs, il passe son temps à regarder la télé avec sa zapette. Il a fait installer au pied du lit des tas de récepteurs de télévision. Et c'est vrai que ce temps de concentration est extrêmement limité. D'après tout, les témoins de son entourage, tous ceux qui se sont fait virer, hein, parce que ça va vite et il y en a un paquet. Et ils n'ont pas l'air très contents de leur séjour à la Maison-Blanche. Mais c'est un peu angoissant tout de même, parce que... Enfin, c'est évidemment que c'est angoissant. C'est compliqué, les histoires du monde. On ne peut pas simplifier la relation. On ne peut pas simplifier l'histoire du Proche-Orient, par exemple. Ce n'est pas possible. On a beau appeler son gendre qui n'y connaît rien et lui confier le dossier. Fabrique-moi un petit plan de paix, mon bonhomme, et que ça nous profite. Ce n'est pas comme ça que ça peut marcher, quoi. C'est de l'irrespect pour la fonction.
Et d'autant plus que sa technique favorite, c'est la vulgarité, l'attaque. Et je crois qu'un de ses conseillers, John Bolton, en a été la victime, Jean-Luc Hesse.
Ah oui, bah, enfin, John Bolton. C'est pareil, il a drainé des gens autour de lui, ce Donald Trump. C'est quand même pas de la première qualité. Hein. Mais ce brave John Bolton, qui est un ultra, ultra conservateur, enfin. Mais il a des grosses moustaches de phoque. Et donc, tout le monde s'est foutu de lui pendant son séjour à la Maison-Blanche, parce qu'il avait des moustaches, comme dans un dessin animé. Et je crois qu'il a très, très mal supporté. Mais il a été très mal. Enfin, Trump n'a pas beaucoup de respect pour les gens, manifestement, même de l'entourage proche, quoi. Mais il traite son entourage comme il a traité les femmes, comme il traite pas mal de monde. Et c'est... Même si on s'abstrait de la politique, ou encore une fois, ce sont les électeurs américains qui votent, c'est pas moi ni vous. Donc c'est leur sujet, c'est leur choix, et ils en assument les conséquences. Mais tout de même, un peu d'élégance dans la vie, ça peut pas faire de mal. Regardez un homme comme Obama. Je veux dire, cette espèce d'élégance... est nécessaire à la fonction. Je ne parle pas d'élégance, d'être le beau gosse du quartier, ce n'est pas ça. C'est une attitude mentale, morale d'être élégant.
Et d'ailleurs, les fake news dont tout le monde parle aujourd'hui, vous dites dans ce livre, Jean-Luc Hesse, que Donald Trump en est un pionnier.
Ah oui, je crois. D'ailleurs, est-ce qu'on avait entendu parler de fake news il y a 4 ans, 4 ans et demi ?
Ça a démarré. Anglais, oui.
Oui, non, mais ça a démarré avec la campagne de Trump. Encore une fois, ce n'est pas un crétin, Trump. C'est, à mon avis, un sale type. Je pèse mes mots. Mais ce n'est pas un crétin, il est roué comme certains de mes voisins paysans en Normandie. C'est-à-dire qu'il comprend un peu la patte humaine, dans ce cas-là, de moins bien. Et je crois qu'il a compris qu'on pouvait mentir, qu'il en resterait toujours quelque chose, et que c'était admissible. Il nous a à l'usure. On s'est habitué à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. Quand il dit « buvez de l'eau de Javel, ça va aller mieux pour le virus », on rigole. On ne devrait pas rigoler, on devrait se dire « ce type est inapte, et il est dangereux ». Et un grand pays ne mérite pas un bouffon à sa tête.
Oui, et en plus, en politique extérieure, internationale, c'est Gaston Lagaffe, je crois.
Jean-Luc. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il comprenne exactement ce qui se passe, quel est l'enjeu. De toute façon, il dit toujours « America first », donc il s'adresse... De toute façon, on ne peut pas critiquer le fait que un chef d'État s'intéresse en priorité à l'état de son pays. Ce n'est pas ça que je reproche à Trump. mais il a une responsabilité particulière. Ou alors, ce n'est pas une superpuissance, il ferme les portes, il ferme les frontières, il fait un mur, ce qui est rigolo, il n'y arrivera jamais. Et puis voilà, quoi. Mais dans quel état sera son pays dans 10 ans? On ne sait même pas, ça sera un pays du tiers-monde. Donc je le soupçonne de ne pas bien comprendre tous les tenants et aboutissants. Quand il va en Corée du Nord, il y a de quoi rigoler. On s'habitue. On ne devrait pas rigoler parce que Kim Jong-un, là, il fait des bombes atomiques. Un jour, qui sait, hein? Et donc, quand il dit à Kim Jong-un, vous savez, c'est très joli, vos côtes, là, votre littoral, on a survolé ça en avion, vous devriez faire des resorts, des beaux hôtels de luxe, tout ça, comme en Floride, quoi. On rigole, on se dit de ce type. D'ailleurs, John Bolton parle de cette rencontre et il cite Mike Pompeo, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et il regarde les deux en train de discuter, Kim Jong-un et Donald Trump, et il dit au... notre moustachu, la Bolton,
oui.
Il lui dit « He's full of shit ». Je traduis pas, c'est d'une grossièreté épouvantable, mais ça veut dire qu'il dit que des conneries. Quoi. Et oui. Encore, j'ai dû le corse qu'il dit. Trump n'a même pas le respect de son secrétaire d'État. C'est incroyable. Enfin, la France a bien des défauts, mais j'imagine pas que ça puisse se passer comme ça entre Emmanuel Macron et Le Drian. Ça me semble impossible.
Et oui, en même temps, vous racontez une anecdote, je crois que c'est le 11 mai 2018, Trump est à Paris sur l'Arc de Triomphe, on voit visiblement qu'il s'ennuie.
Non mais ça, c'est insupportable. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas créé plus d'indignation chez les Américains, notamment dans l'institution militaire. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai relu récemment d'ailleurs la première offensive des Marines américains au bois de Belleau. Hein, c'est en 1918, c'est au mois de, je ne sais plus, avril... Et c'est vraiment une hécatombe pour ces jeunes Américains qui y sont allés comme à la parade. Et ça a été une vraie boucherie. Mais ils ont montré tout leur courage et toute leur ténacité et tout. Ils sont enterrés là-bas. Il y en a quelques centaines, même plus d'un millier, je crois. Et le président des États-Unis, on lui dit bah, « ça serait bien d'aller honorer la mémoire de ces jeunes gens ». Et il dit « non, non, j'y vais pas, il pleut ». Et puis en plus, c'est des losers, c'est des mauvais, ils ont perdu, quoi. Comment peut-on... Non mais c'est, écoutez, je n'en reviens toujours pas. Et je me dis, faudrait pas qu'ils secouent un peu trop la queue du mistigri avec les militaires américains, parce que c'est une institution vraiment hyper patriotique et qui a vraiment conscience de servir son pays. Donc peut-être que ce sont des mots, j'espère qu'il aura à regretter.
Voilà, on verra. En tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Il s'appelle « L'Amérique, la facture » chez Baker Street, Jean-Luc Hesse. Merci d'avoir écrit, parce qu'on apprend plein de choses sur Donald Trump. Au moins, on se fait une idée.
Ben, vous êtes trop aimable. Je vous remercie pour l'invitation.
Merci en tout cas d'être venu dans ces clés d'une vie qui sont terminées pour aujourd'hui. À bientôt, et puis restez surtout fidèles à l'écoute de Sud Radio.